Et les 18h sur France Culture avec Aurélie Kiefer pour le journal. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Après les révélations de Radio France sur les ristournes obtenues par le candidat Macron au cours de sa campagne présidentielle, le parti Les Républicains veut saisir la Commission nationale des comptes de campagne pour qu'elle réexamine les frais de campagne de l'actuel président. Ford prévoit un plan social à Blanquefort en Gironde. Bruno Le Maire regrette ce choix, mais pour le ministre de l'Économie, une reprise de l'intégralité des quelques 900 salariés reste possible. Le G7 qui s'ouvre demain au Canada s'annonce particulièrement tendu. Le président américain a prévenu qu'il resterait inflexible sur la question des droits de douane. Il n'est pas envisageable de faire la guerre commerciale à ses alliés, lui répond Emmanuel Macron. Après une semaine de manifestations contre une réforme fiscale en Jordanie, le nouveau Premier ministre annonce le retrait du projet de loi controversé. Une nouvelle mouture du projet sera présentée une fois le nouveau gouvernement jordanien formé. Nous avons relayé ce matin les révélations de la cellule Investigation de Radio France. Lorsqu'il était candidat d'En Marche, Emmanuel Macron a bénéficié de ristournes de la part d'entreprises. Il a notamment bénéficié de tarifs de location de salles particulièrement bas. Vous retrouverez le détail de cette enquête sur franceculture.fr. À la suite de ces révélations, Stéphane Robert, l'Élysée a répondu que les comptes avaient été validés et qu'il n'y avait plus rien à en dire. Mais le parti Les Républicains veut saisir la Commission nationale des comptes de campagne.
Oui, le parti Les Républicains de Laurent Wauquiez va demander à la Commission nationale de réexaminer les comptes d'Emmanuel Macron. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui réclame, lui, l'ouverture d'une enquête, alors que ses comptes de campagne à lui, Mélenchon, font déjà l'objet d'une enquête ouverte par le parquet de Paris. Mais il apparaît pour l'heure assez peu probable que ces demandes soient satisfaites, étant donné que le président de la CNCCFP, Commission nationale des comptes de campagne, François Laugereau, a déjà répondu que ses rapporteurs avaient bien travaillé, qu'il n'y avait pas d'irrégularité. Au début du mois de mai, sur ces ristournes constatées, la commission avait conclu qu'elles étaient acceptables et qu'elles ne constituaient pas de participations illicites au financement. Et son président, François Laugereau, a précisé ce matin qu'il n'y avait pas de prix du marché dans le secteur de l'événementiel. Il n'empêche que le candidat Macron a bénéficié de rabais sur la location de plusieurs salles sur lesquelles il convient peut-être de s'interroger. Moins 75% pour le théâtre Bobineau, loué 3000 euros au lieu de 13 000, ou encore 1200 euros pour la location de la Bellevilloise dans le 20e arrondissement de Paris, alors que Benoît Hamon, le candidat PS pour la même salle, avait dû payer 4800 euros. C'est ce qui fait dire à Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, qu'il y a rupture d'égalité entre les candidats. Mais tous ses adversaires politiques qui critiquent Emmanuel Macron ne sont pas en reste en la matière, puisque sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, 470 000 euros ont été retoqués, avec notamment des facturations litigieuses qu'auraient effectuées des proches du candidat. Quant au Front National, lui aussi a vu ses comptes validés, mais 870 000 euros de dépenses ont été retoqués, avec par exemple une facture de 260 000 euros pour l'impression de 4 millions de tracts. C'est apparemment trois fois plus élevé que le prix du marché.
Stéphane Robert. Ford va ouvrir des négociations pour un plan social sur son site de Blanquefort en Gironde. Fin février, le groupe automobile avait annoncé qu'il cessait tout investissement dans l'usine et qu'il cherchait un repreneur pour ce site de fabrication de boîtes de vitesse. Le constructeur vient de soumettre au syndicat un plan de sauvegarde de l'emploi. Si aucune reprise n'intervient, l'usine fermera définitivement en septembre 2009. Pour la première fois, Ezequiel Fernandez, le pire scénario est formalisé et une échéance fixée.
Une date couperet, septembre 2019, peut-être la fin de 45 ans d'aventure industrielle en Gironde. Ford Europe joue avec les nerfs de ses 900 salariés, avec ceux aussi de l'État et des collectivités locales. Pour le constructeur, la priorité reste la recherche d'un repreneur. Et en même temps, il prépare les conditions de mise en œuvre de la pire hypothèse, la fermeture. Un double langage qui hérisse Gilles Lambersan, élu CGT au comité d'entreprise.
Nous, on est toujours sur la continuité de l'activité à FAI. On sait que c'est possible. Donc aujourd'hui, quel moyen Ford a laissé à un éventuel repreneur? On les a mis devant leurs contradictions, quoi. C'est difficile, quoi, parce qu'il n'y a aucune garantie de Ford de laisser de l'activité, le nombre d'emplois. Je veux dire, comment on peut négocier avec un repreneur sans donner un nombre d'emplois, l'activité qu'il peut avoir, voilà.
Alain Rousset, Jean-Luc Glaise, Alain Juppé, patron respectivement de la région Nouvelle-Aquitaine, du département de la Gironde et de Bordeaux Métropole, estiment que la décision de Ford est incompréhensible et inacceptable. Alain Rousset parle de faute industrielle.
Même si les jeux sont faits pour Ford, les jeux ne sont pas faits sur le plan industriel et sur l'activité industrielle de boîte de vitesse. C'est une vraie erreur industrielle ou une faute industrielle de la part de Ford de nous laisser tomber comme ça, et c'est vraiment le plus mauvais moment d'engager un PSE.
Les collectivités locales demandent à l'État de peser de tout son poids pour garantir la pérennité du site de Ford Blanquefort. Toute la question est de savoir si l'État a vraiment les moyens d'empêcher le pire.
Ezequiel Fernandez. La grève des cheminots contre la réforme de la SNCF continue de s'effriter. Selon la direction, le taux de grévistes est tombé à 14,28% et les prévisions de trafic sont en hausse pour demain. 3 Transiliens sur 5, 1 TER sur 2, 1 Intercité sur 2 et 4 TGV sur 5 devraient circuler. Des ruches, des cercueils et la sonnerie aux morts sur l'esplanade des Invalides. Ce matin, des apiculteurs ont organisé une fausse cérémonie funèbre pour interpeller le gouvernement et pour lui rappeler l'urgence qu'il y a à lutter contre les néonicotinoïdes, des insecticides utilisés par les agriculteurs et qui désorientent et affaiblissent les abeilles dont le taux de mortalité est en forte hausse. Cette année, certains apiculteurs ont perdu jusqu'à 90% de leur cheptel. Véronique Reberotte, vous avez donc suivi cette manifestation parisienne.
Oui, sur l'esplanade des Invalides et quand là, les apiculteurs avaient prévu d'aller jusqu'à l'Élysée interpeller Emmanuel Macron. Ils ont été rapidement arrêtés dans leur élan. Parmi eux, Marie Géorgie, c'est une jeune apicultrice installée dans le Finistère.
On demande au gouvernement déjà une reconnaissance parce que jusqu'à présent, on a tendance à minimiser, à dire que c'est multifactoriel, que c'est le travail des apiculteurs, à essayer de faire du cas par cas pour nier un phénomène de masse. Il y a quand même 20 000 ruches qui sont mortes en Bretagne sur 60 000. Il faut qu'on reconnaisse la catastrophe écologique qui se produit là en ce moment en France, quoi. Ensuite, bien sûr, on demande des mesures d'aide pour les apiculteurs professionnels et aussi plus réactifs qui, du coup, vivent quand même de l'apiculture. Parce que comme on le disait dans le discours tout à l'heure, nous ne sommes pas coupables de ce qu'il est en train de se produire.
Nous allons à présent rendre hommage aux colonies d'abeilles disparues.
Voilà, pas de président Macron, mais une visite surprise. En revanche, de Nicolas Hulot, soutien aux apiculteurs de la part du ministre de l'écologie en langage macronien.
Simplement, je voulais vous dire que, évidemment, j'étais pas sourd. Tout ça va dans le même sens du combat que je mène. Ce qui est nuisible aux abeilles, à un moment ou à un autre, est nuisible pour la santé humaine. Voilà. En même temps, ça met aussi les agriculteurs dans des situations qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pour ça que moi, je veux avoir une stratégie globale. Il y a une situation d'urgence, on va regarder comment on peut y répondre. Donc voilà. Et encore une fois, les décisions ne m'appartiennent pas, mais je peux les relayer. Voilà. Oui, et je vais même les appuyer, bien entendu. Et après, il y a surtout le partage des solutions avec nos amis agriculteurs. C'est-à-dire voir comment on sort de cette situation et qu'on bâtisse une stratégie ensemble.
Des tueurs d'abeilles sont clairement identifiés. Ce sont les pesticides néonicotinoïdes. En France, la loi sur la biodiversité de 2016 prévoit leur interdiction dès le mois de septembre cette année, donc, mais avec des dérogations possibles, ce qui n'est pas souhaitable, bien sûr, alerte l'ex-ministre de l'écologie Delphine Bateau.
Moi, je suis à l'origine de cette loi d'interdiction des néonicotinoïdes et pour moi, au 1er septembre prochain, elle doit s'appliquer complètement dans la lettre et dans l'esprit.
Voilà, sans dérogation.
Exceptionnel et vraiment par rapport à des situations très très limitées et très très particulières.
L'Europe prévoit aussi d'interdire 3 néonicotinoïdes en décembre dans toutes les cultures en plein champ.
Véronique Reberotte. Créer en banlieue une résidence d'artistes aussi ambitieuse que l'Académie de France à Rome. L'idée était née à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Après les violences urbaines de 2005, le projet a connu des hauts et des bas, mais il ouvre officiellement son premier site ce soir. La Tour Utrio, qui devait initialement héberger les artistes, a été rasé, mais c'est là que les ateliers Médicis devraient être construits en dur, a priori en 2024. En attendant, Christine Monclat, c'est une structure légère et démontable qui a été mise en place et vous l'avez visitée avec les architectes.
Oui, ce matin, et c'est un rectangle de bois de 20 mètres de hauteur, surmonté d'un chapiteau rouge qui est censé remplacer à terme, visuellement et dans les têtes, l'ancien repère du quartier qui était en effet cette tour Utrio, la tour noire, comme l'appelaient les riverains, à cause des milliers de corneilles qui avaient envahi ces bureaux désespérément vide. Sébastien Aymar est l'un des architectes qui a conçu ces ateliers Médicis. Il insiste sur ce contrepoint nécessaire, sur ce souci de ne pas intimider, dit-il, le paysage et ses habitants.
Il faut à la fois pas impressionner, il faut pas être dans le même langage que les bâtiments voisins d'habitation. Il a cette matière de construction qui est en bois, ça c'est vraiment un choix d'architecte engagé sur la question écologique, mais c'est aussi parce que il faut arrêter de dire que parce qu'on est en banlieue et qu'il y a des dégradations, les gens ne méritent pas d'avoir des constructions en bois. Et après il est comme ça surmonté d'une bâche de chapiteau pour lui donner à la fois son rôle de repère et en même temps avec ce tempérament un peu lieu de fête.
On monte sur la terrasse par à un ascenseur lui aussi en bois. Et en bas, Clichy et Montfermeil étalent leurs immeubles plus ou moins rénovés et un chantier urbain immense et permanent, notamment celui du métro du Grand Paris qui devrait arriver normalement en 2024. Et c'est à ce moment-là seulement que sera construit le grand bâtiment en dur de ses ateliers Médicis. Écoutez Cécile Portier, elle est la directrice adjointe des ateliers.
Concevoir un équipement culturel d'une si grande importance sans considérer la question de l'enclavement de ce territoire, c'est un petit peu compliqué. Et ça contribuera à faire de ces deux villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil des villes de destination et pas simplement de relégation. Et ça, pour nous, c'est important.
C'est important et c'est surtout l'essence même de ce projet. Pas question d'y faire de l'occupationnel culturel, en quelque sorte. C'est en tout cas l'ambition. Alors, en attendant les murs en dur, les artistes de Médicis devront faire non seulement la preuve de leur excellence, mais aussi de leur utilité sociale sur ce territoire. Pour preuve, avancent encore les créateurs des ateliers, à ceux qui en doutent, l'inauguration de ce soir sera festive et populaire, sans ministre ni ruban.
Christine Monclin. À la veille de l'ouverture du G7 à Ottawa au Canada, Justin Trudeau et Emmanuel Macron affirment leur détermination en réponse à l'inflexibilité de Donald Trump. Le 1er juin, les États-Unis ont fortement augmenté les taxes douanières sur l'aluminium et l'acier. Le président français et le premier ministre canadien, qui veulent défendre le multilatéralisme économique, expliquent qu'ils ne peuvent pas accepter de guerre commerciale de la part d'un allié. Isabelle Labéry est notre envoyée spéciale au Canada.
Emmanuel Macron et Justin Trudeau ont les mêmes mots pour leur partenaire américain. Un partenaire difficile face auquel ils n'ont aucune envie de transiger, quitte à se passer de son accord pour signer une déclaration finale à 6 pays seulement.
Et je crois qu'on ferait une erreur si on disait ben, on est prêt à renoncer à tout, à plus dire qu'on tient à l'accord de Paris, au climat, au commerce, pour avoir cette signataire. Parce qu'à ce moment-là, on viderait de sa pertinence ce G7. Et donc il ne faut pas, par principe, s'interdire d'avoir un 6+1.
En matière de commerce, Justin Trudeau et Emmanuel Macron ne cessent de vanter les bienfaits du CETA, l'accord de libre-échange conclu entre le Canada et les Européens. Grâce à lui, les investissements canadiens en France ont augmenté de 23%. Alors invoquer la sécurité nationale, comme le fait Washington, pour justifier des taxes douanières, c'est risible, inapproprié, disent les deux hommes. Mais Donald Trump n'est pas éternel. Un jour viendra où les États-Unis retrouveront le cours de leur histoire.
Nos soldats se tiennent côte à côte pour défendre la liberté et nos valeurs. On ne peut pas, entre alliés, dans le contexte international que nous connaissons, décider de guerre commerciale.
Les dirigeants français et canadiens assurent qu'ils veulent malgré tout trouver une issue à ces tensions. Leur argument pour convaincre Donald Trump, à terme, le protectionnisme serait toxique aussi pour l'économie américaine.
Isabelle Labéry à Ottawa avec Marcos Darras à la technique. Ferme envers les Occidentaux, rassurant envers les Russes, voilà la tonalité du discours de Vladimir Poutine à la télévision aujourd'hui. Le président russe se livre chaque année avec le même plaisir, au même exercice, un grand oral en direct sur les grandes chaînes de télévision fédérales, au cours duquel il répond aux questions de téléspectateurs soigneusement sélectionnés. Vous étiez devant votre télévision à Moscou, Claude Bruyot.
Cette véritable grand-messe annuelle est toujours l'angoisse des gouverneurs en région, car c'est à eux ensuite qu'incombe plus souvent la lourde tâche pour laquelle Vladimir Poutine s'engage en général seul en direct en studio. Moderniser un hôpital dans une petite ville, accélérer le paiement des aides sociales dans une région reculée, ou encore régulariser la situation de réfugiés du Donbass pendant plus de 4 heures. Vladimir Poutine, comme à son habitude, a pris le temps d'écouter les doléances de certains de ses concitoyens, sélectionnés auparavant en direct depuis leur domicile ou enregistrés au préalable. Mais le président russe, qui tient le micro dans l'exercice depuis 2001, en a aussi profité pour aborder les tensions internationales en s'efforçant à chaque fois de prendre du recul, comme lorsqu'il a été question d'un nouveau conflit mondial. Rappelez-vous ce que disait Einstein, a cité Vladimir Poutine, « Je ne sais pas avec quels matériaux sera faite la 3e guerre mondiale, mais la 4e, elle, en revanche, se fera avec des pierres et des bâtons. » Vladimir Poutine, la plupart du temps, a toutefois essayé de rassurer les téléspectateurs qu'ils soient inquiets de la hausse des carburants ou du faible niveau de l'équipe nationale de football. « D'un point de vue général, nous avançons dans la bonne direction », a dit le président russe, rappelant, sur un mode plus personnel, que son père lui avait toujours conseillé de ne jamais mentir.
Le pouvoir jordanien joue la carte de l'apaisement. Le nouveau Premier ministre, Omar Razaz, annonce le retrait du projet de loi contesté à l'origine de la grogne sociale. Depuis une semaine, en effet, des milliers de Jordaniens manifestent contre l'augmentation prévue des impôts et des prix de l'électricité et de l'essence. Les revendications des manifestants ont même commencé à se diversifier et à gagner le terrain politique. Mais le pouvoir essaye de calmer la rue avec un certain succès, Jérôme Borusewski.
Ce n'est qu'une question de quelques jours. Dès que le nouveau Premier ministre aura formé son gouvernement, il retirera le projet de loi fiscale à l'origine du mouvement social en Jordanie. Le pouvoir satisfait donc une nouvelle revendication des manifestants. À l'évidence, le Premier ministre cherche à rassurer. Il multiplie donc les signes de bonne volonté. Aujourd'hui, par exemple, il a rencontré les syndicats qui ont organisé une journée de grève hier. Le dialogue social est donc rouvert. Le Premier ministre a promis de payer les salaires de juin des fonctionnaires avant la fête de l'Eid, la semaine prochaine. Et la presse locale indique aujourd'hui que la Jordanie va demander un délai supplémentaire au Fonds monétaire international pour mettre en œuvre les réformes économiques marquées par l'austérité qui ont déclenché le mouvement social. Le Premier ministre Omar Razaz joue donc l'apaisement, une stratégie qui fonctionne puisque la mobilisation est clairement en baisse, les rassemblements nocturnes attirent de moins en moins. Beaucoup de manifestants disent vouloir donner au Premier ministre un peu de temps pour agir. Ils indiquent tout de même qu'ils ne se satisferont pas seulement de paroles. Ils attendent des actes concrets pour soulager leurs difficultés économiques.
Jérôme Boruzewski à Amman. Le président afghan proclame un cessez-le-feu temporaire dans les opérations contre les insurgés talibans. Les forces afghanes de sécurité suspendront leurs opérations jusqu'au 20 juin, le temps des fêtes religieuses de l'Aïd el-Fitr à la fin du Ramadan. C'est la première fois depuis son élection en 2014 qu'Ashraf Ghani propose un cessez-le-feu sans condition aux talibans. Le gouvernement indien avait lui déclaré à la mi-mai un cessez-le-feu unilatéral au Cachemire pour le mois du Ramadan. Le ministre de l'Intérieur est arrivé sur place ce matin pour évaluer la situation sécuritaire dans cette région disputée avec le Pakistan depuis 70 ans. La situation reste très précaire au Cachemire, Sébastien Farcy.
Les poursuites contre les enfants qui ont jeté des pierres aux militaires seront abandonnées. Telle est la principale annonce du ministre de l'Intérieur à son arrivée au Cachemire. Nouveau signe d'apaisement donc après la trêve du Ramadan qui interrompt pendant un mois les assauts de l'armée contre les militants indépendantistes. Mais pour Parvez Imroz, avocat et président de la coalition pour la société civile, cette accalmie n'est que superficielle.
Des milliers de ces jeunes sont accusés, mais un grand nombre sont faussement impliqués. Et pour être relâchés, leurs parents doivent maintenant signer un document devant la cour qui reconnaît le crime. La trêve a été bénéfique, mais c'est surtout une opération temporaire de camouflage. Le gouvernement indien ne négocie pas avec la société civile. Il continue à considérer que la solution du Cachemire est militaire.
Les indépendantistes les plus radicaux d'origine pakistanaise ont toutefois profité de cette trêve pour attaquer des militaires au Cachemire. Le dernier assaut a eu lieu ce matin et blessé 2 soldats. 14 assauts à la grenade ont également eu lieu en 3 semaines, tuant 40 personnes, principalement des civils.
Sébastien Farcy, correspondant de RFI et France Culture en Inde. Enfin, nous allons à la frontière sino-nord-coréenne. À quelques jours du sommet historique qui doit réunir à Singapour les dirigeants américains et nord-coréens, les habitants de la frontière sont encore hantés par la guerre de Corée. La Chine a été très impliquée dans le conflit qui a opposé les deux Corées de 1950 à 1953. Le conflit s'était achevé par un simple armistice. Les habitants espèrent que le sommet de Singapour permettra d'aboutir à la signature d'un traité de paix. Le reportage à Dandong de Dominique André.
65 ans après le conflit, M. Zhao se souvient encore des scènes de guerre sur la rivière Yalu qui sépare la Chine de la Corée du Nord. Il avait 15 ans quand la guerre a éclaté. On estime qu'au moins 250 000 soldats chinois ont péri dans la guerre de Corée, dont le propre fils de Mao Tse-tung. M. Zhao a 80 ans, il se promène encore parfois le soir sous le pont qui a été bombardé par les avions américains.
J'ai habité à côté de la rivière Yalu, j'ai vu le ciel rouge, les flammes rouges des batailles tous les soirs en Corée. Les avions américains ont largué des bombes en direction du pont, dans les rues de Dandong où se trouvaient les marchés et l'opéra. En 1950, les USA ont agressé la Corée du Nord. Les troupes internationales de 17 pays ont envahi la Corée du Nord qui est notre voisine. La Chine a donc envoyé des troupes pour aider la Corée du Nord. Les troupes chinoises sont passées par ce pont juste là. Le matériel a été transporté par ce pont. De jour comme de nuit, les avions américains n'ont cessé de bombarder le pont.
C'est ainsi que l'histoire a été enseignée à M. Zhao. La Chine et la Corée du Nord considèrent que les États-Unis sont à l'origine de ce conflit qui a fait des millions de morts. Dans les faits, la guerre débute dans la péninsule en 1950 quand les forces du Nord communistes franchissent le 38e parallèle qui divise la péninsule coréenne et envahissent le Sud capitaliste. Une force internationale sous mandat de l'ONU, avec plus de 80% de soldats américains, s'engage pour aider le Sud. Sur la rivière Yalu, ce couple de jeunes touristes chinois vient visiter les vestiges de la guerre. Monsieur et Madame Zhang espèrent que la Corée du Nord sera dénucléarisée et que les États-Unis n'attaqueront pas le régime de Kim Jong-un.
Je voudrais que les Nord-Coréens puissent vivre de mieux en mieux. On est tous égaux, tous pareils, il y a juste une rivière qui nous sépare. Pourquoi il y a un aussi grand écart entre eux et nous ?
Je sais que ce n'est pas très beau là-bas en Corée du Nord, mais j'ai envie d'aller voir. Je vais bientôt y aller. Je suis curieuse. Quand un gouvernement aime son peuple, la paix est toujours possible. Quand il y a la guerre, c'est le peuple qui souffre.
J'aime la paix. Le monde entier doit avoir la paix.
La mémoire de la guerre est vive sur la frontière. Les combats se sont achevés en 1953 avec la signature d'un armistice et non d'un traité de paix. Les habitants espèrent que le sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump aboutira au lancement d'un véritable processus de paix.
Dominique André, et tout est prêt pour le sommet avec Kim, déclare ce soir le président américain. Encore des orages demain sur une grande partie est de l'Hexagone, sur l'ouest des éclaircies et un temps plus ensoleillé près de la Méditerranée. Les températures 10 à 18 degrés le matin, 17 à 28 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.